Prions-le, Seigneur. Seigneur, nous nous remettons à toi, Seigneur. Toi qui es la parole, toi qui es la vérité, toi qui es la lumière, Seigneur. Éclaire-nous en ce moment que nous voulons t'écouter, Seigneur. Dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette parole, non venant d'un homme, mais venant de toi, Seigneur. Et éclaire-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux par ton esprit afin que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons adoré Dieu, mais il y a une chose que notre pasteur a dit, que les bergers, les manges ont adoré Jésus-Christ. Ils l'ont adoré parce qu'ils ont cru à la parole qui leur a été dite par les anges. Mais dans la parole de Dieu aussi, dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple d'un homme à qui l'ange a dit des choses, mais cet homme n'a pas cru à la parole de l'ange Gabriel. Le thème de notre message ce matin, c'est l'incrédulité de Zacharie. C'est quelqu'un que nous connaissons très bien, ou que nous avons déjà entendu parler, Zacharie. L'incrédulité de Zacharie. Et pour cela, nous allons lire dans l'évangile de Luc, au premier chapitre, les versets 5 à 25. Évangile de Luc, chapitre 1, les versets 5 à 25. Je vais inviter le frère David de venir lire les passages pour m'aider. Luc, chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au 25e verset.
Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur, pour offrir le parfum. Verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put parler, et ils comprirent qu'il avait vu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque les jours du service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen.
C'est la parole du Seigneur. Oui, nous trouvons, chers frères et sœurs, dans la Bible, plusieurs annonces de naissance faites par Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Nous pouvons citer, par exemple, dans l'Ancien Testament, le cas de Samson, Samuel, Isaac. Et dans le Nouveau Testament, nous pouvons citer le cas de Jean-Baptiste, même le cas de Jésus-Christ. Mais si nous lisons bien l'évangile de Luc, les deux premiers chapitres de l'évangile de Luc nous relatent deux grands événements. Les deux premiers chapitres de Luc, le chapitre 1 et le chapitre 2, nous racontent deux grands événements. Et dans ce récit, si nous regardons très bien, il y a deux annonces de naissance, au chapitre 1, chapitre 2. Il y a deux annonces de naissance. Il y a deux manières ou deux façons de répondre à ces annonces de naissance. Il y a deux grossesses miraculeuses. Et un peu plus loin, il y a deux cantiques de louange à la gloire de Dieu. Et il y a deux naissances avec deux missions différentes à accomplir. Si nous étudions très bien le chapitre 1, le chapitre 2. Deux naissances avec deux missions différentes à accomplir. Et dans ces deux naissances, les enfants à naître sont annoncés, les deux enfants à naître sont annoncés à l'avance par l'ange. Les deux naissances ou les deux conceptions sont miraculeuses parce que l'un des enfants est né d'une femme avancée en âge et stérile. Et l'autre enfant est né d'une jeune fille vierge qui n'a point connu d'homme. Mais en mettant côte à côte les deux événements et en lisant bien l'évangile de Luc, nous constatons ou nous remarquons que ces deux récits servent finalement à nous montrer que l'un des deux enfants est plus grand que l'autre. L'un de ces enfants est plus grand que l'autre. En d'autres termes, Jésus-Christ est plus grand que Jean-Baptiste, comme l'avait dit, comme l'avait annoncé l'ange à Marie. Au chapitre 1 et le verset 32, il est dit ceci, à partir du verset 31, s'adressant à Marie, l'ange dit, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, comme on l'a entendu ce matin, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Dans les deux naissances, l'ange a donné aussi les noms des deux enfants. Et pour le cas de Marie, et pour démontrer que l'enfant qui naîtra de Marie sera plus grand que l'autre enfant, l'ange dit qu'il sera grand, il sera appelé fils de Très-Haut. Et sa mission sera quoi? Sa mission, on le voit dans son nom. Parce que la Bible dit que tu l'appelleras Jésus. Et Jésus signifie Dieu sauve. Dieu sauve. Parce que l'ange a dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et l'autre enfant, Jean-Baptiste, sa mission était de préparer le chemin du Seigneur. Voilà la différence entre les deux. Il y a un qui va préparer le chemin et il y a l'autre qui va venir après, mais qui sera plus grand que le premier. Jean-Baptiste lui-même a déclaré que c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi et que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Voilà la différence entre les deux annonces, entre les deux naissances. Il y a l'un de ceux, des deux enfants qui sera plus grand que l'autre, car leur mission était différente. S'il faut revenir à notre passage, en lisant notre passage au chapitre 1 à partir du verset 5, la première chose que la Bible dit à propos de Zacharie, avant même de citer son nom, la Bible dit qu'il était sacrificateur. Zacharie était sacrificateur. Zacharie aime et sert le Seigneur, lui et sa femme. Même s'ils avaient un problème, dans leur couple, même s'ils avaient un problème dans leur famille, mais la Bible dit que les deux se couplent, ils aimaient le Seigneur, ce couple aimait le Seigneur et ils servaient le Seigneur. Quel bel exemple! Cela ne les a pas empêchés à servir le Seigneur, à se donner pour le Seigneur, à prendre soin de l'œuvre du Seigneur, malgré qu'ils avaient un problème. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils priaient pour avoir un enfant. Mais Dieu, dans son bon plaisir, choisit de ne pas répondre tout de suite à leur prière. Dieu, il est souverain, il est Dieu. Il n'a pas voulu répondre tout de suite à leur prière. Mais cela n'a pas empêché ce couple de continuer à aimer, à adorer et à servir le Seigneur. Chers frères et sœurs, si on peut s'arrêter un instant là-dessus, qu'est-ce qui peut nous empêcher de servir le Seigneur, de continuer à adorer, de louer le Seigneur? Des fois, nous nous contentons de nos petits problèmes passagers de ce monde, pour dire que frère, je ne peux pas parce que j'ai ceci, il y a ça, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Mais imaginez ces couples, ne pas avoir un enfant. Et ils sont avancés en âge. Mais ils continuent à servir le Seigneur. Je ne peux pas parce que j'habite loin. Je ne peux pas parce que je n'ai pas de temps. Je ne peux pas parce que les enfants, il faut prendre soin des enfants. Nous cherchons toujours des raisons à droite, à gauche. Valable ou pas valable, mais nous ne sommes pas là-dessus. Mais nous voyons seulement ce couple, ce grand problème qu'ils avaient. Et de deux, nous voyons dans ce couple, ils se soutenaient mutuellement. Bien qu'ils avaient ce problème, le mari soutenait sa femme et sa femme soutenait le mari. Combien de fois on voit certains couples parce qu'il y a un problème, et bien ça c'est ton problème, moi je ne suis pas là, hein, donc bon, ben, tu fais ce que tu veux, hein. Moi ça ne m'intéresse plus. On a vu le cas de la femme de Job. Quand il y avait des difficultés, quand il y avait des problèmes, comment elle a réagi? Maudit Dieu, elle meurt. Mais Élisabeth n'a pas dit ça. Zacharie n'a pas dit ça. Zacharie, il a continué à servir le Seigneur et à aimer le Seigneur. Chers frères et sœurs, notre méditation de ce matin sera axée sur deux points. Le premier point, c'est l'annonce de l'ange Gabriel. L'annonce de Gabriel. Et le deuxième point, Zacharie ne croit pas. L'annonce de Gabriel et Zacharie ne croit pas. Le premier point, l'annonce de Zacharie. L'annonce de Gabriel. L'annonce de l'ange. Vous savez, le nom biblique signifie quelque chose. Il dit quelque chose sur la personne qui porte le nom. Comme on l'avait partagé dimanche passé avec les jeunes adultes, le nom qu'on donne à la naissance d'un enfant a une importance dans la vie d'un enfant. La Bible dit que à Marie, l'ange a dit, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et ce nom signifie quoi? Dieu sauve. Dieu sauve. Ici, peut-être en Europe, ça ne se fait pas beaucoup. On avait partagé cela dimanche passé avec les jeunes. D'où nous venons, nous, dans notre planète, souvent donner des noms aux enfants sur base de quelque chose qui s'est passé dans la famille. Et quand tu as un enfant, tu te réfères à cet événement et tu donnes un nom qui correspond à cet événement. Et Jésus, le nom qu'on a donné à Jésus avait une signification, c'est-à-dire Dieu sauve. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire biblique, je voulais savoir la signification maintenant de Zacharie et Élisabeth. Je pense que ça doit signifier quelque chose, le nom Zacharie ou le nom Élisabeth. J'ai fouillé dans le dictionnaire biblique et voici ce que j'ai trouvé. Le nom Zacharie signifie Dieu se souvient. C'est ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire biblique. Vous pouvez aller chercher aussi. Zacharie signifie Dieu se souvient. Et le nom de Élisabeth signifie la promesse de Dieu. D'autres dictionnaires bibliques disent Dieu agirait. Donc, Zacharie, Dieu se souvient. Élisabeth, la promesse de Dieu. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Mais quand on fait l'addition, je pense que quand on fait l'addition, 1 plus 1 est égal à 2. Le 2 là, c'est la somme, c'est ça, hein? Aidez-moi, parce que nous, ça fait longtemps qu'on a quitté les bas de l'école. Donc la somme, je crois, donc ça donne la somme. Et quand on additionne, Dieu se souvient, plus la promesse de Dieu, la somme que nous obtenons, ça dit quelque chose. Imaginez. La somme que nous obtenons, ça dit quelque chose. Et quand on prend ces deux noms-là séparément, Dieu se souvient, la promesse de Dieu, les deux noms témoignent également, témoignent même la fidélité de Dieu. Dieu se souvient, la promesse de Dieu témoigne même la fidélité de Dieu. Et lorsque nous additionnons les deux noms, lorsque nous les mettons ensemble, la somme que nous avons, ça nous donne une vérité biblique qui dit quoi? Dieu se souvient de sa promesse. Quand on additionne, Dieu se souvient et la promesse de Dieu, ça donne, est égal, Dieu se souvient de sa promesse. Et je me suis dit, waouh, quand même, ça dit quelque chose. Dieu se souvient de sa promesse. Voilà le nom de ce couple. Dieu se souvient de sa promesse. Promesse. Alors nous allons nous poser une question. De quelle promesse s'agit-il? De quelle promesse Dieu se souvient-il pour ce couple? De quelle promesse? Parce que leur nom, Dieu se souvient, la promesse de Dieu est égale, Dieu se souvient de sa promesse. Mais de quelle promesse s'agit-il? Alors, en lisant la Bible, nous avons de cette promesse que Dieu s'est souvenu. Pour cela, nous allons lire dans Malachie, chapitre 4. dans l'Ancien Testament, le dernier livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 4. Et c'est là où nous allons trouver cette promesse que Dieu s'est souvenu pour ce couple. Malachie chapitre 4, le verset 5 et 6. Malachie chapitre 4, le verset 5 et 6. Nous lisons ceci. Malachie chapitre 4, verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. Dans d'autres versions, il est dit, de peur que je vienne frapper les pays par une malédiction. Voilà la promesse qui a été faite. Il arrive, je vous enverrai, Élie, le prophète. Il aura comme mission de ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Lisons aussi Malachie toujours, mais chapitre 3 et le verset 1. Malachie 3, le verset 1, il nous est dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Remarquons la mission de ce messager. Il préparera le chemin devant moi. Et quelle a été la mission de Jean-Baptiste? Nous le savons bien. Préparer le chemin du Seigneur, aplanir ses chemins. Voici de quelles promesses Dieu s'est souvenu pour ce couple. C'est pour cela que ce couple s'appelle Dieu se souvient de sa promesse. Parce que Dieu avait promis qu'il va envoyer son messager. Nous voyons bien qu'il y a la promesse d'un prophète qui aura une mission spéciale, il tournerait le cœur du peuple vers Dieu. Et nous nous rappelons la mission de Jean-Baptiste. Qui vous a dit de fuir la colère à venir? Je suis la voix qui crie dans le désert. Lui-même a dit que je suis là pour préparer le chemin du Seigneur. C'était la mission de Jean-Baptiste. Et Dieu s'est souvenu de cette promesse. C'est pour cela qu'il a envoyé l'ange Gabriel annoncer cela à ce couple. C'est pour cela qu'il a envoyé l'ange Gabriel annoncer cela à Zacharie. Et au verset 8 du chapitre 1 de Luc, nous lisons que pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, Zacharie fut appelé par le sort à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Zacharie a été tiré au sort. Mais quand on tire au sort, on choisit. Oui, après c'est elle qui gagne. Mais en fait, qui a choisi Zacharie? Qui a choisi Zacharie? Dieu l'a fait à sa manière. Dieu a fait cela à sa manière. Nous voyons la main de Dieu impliquée dans le choix de Zacharie ces jours-là quand ils ont tiré au sort. Nous voyons la main de Dieu là-dedans. Pourquoi? Parce que le proverbe 16, 33, ne cherchez pas, je vais lire pour vous. Le proverbe 16, 33 dit ceci. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Donc lors de ce tirage au sort, nous voyons la main même de Dieu agir en cela. Et cet événement d'être choisi, d'être tiré au sort, était considéré comme le plus grand événement de la vie d'un sacrificateur, parce qu'ils étaient très nombreux. Ils étaient très nombreux. Certains sacrificateurs passaient toute leur vie à ne jamais être tirés au sort. Mais ce jour-là, c'est Zacharie qui a été tiré au sort. Dieu a voulu que ce soit Zacharie qui devrait entrer dans le temple pour offrir le parfum. Vous savez, le moment choisi par Dieu est toujours parfait et Dieu sait ce qu'il fait. Des fois, on se dit, mais ça tarde. Pourquoi ceci? Mais Dieu sait. Le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, les choses passeront selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Des fois, on se lamente pour rien. Des fois, on se décourage pour rien. Parce que cela ne vient ni trop tôt, ni trop tard. Dieu a un timing qu'il respecte, que lui-même il sait. Et il agit en son temps. C'est pour cela que le moment choisi par Dieu est toujours parfait. Et il sait ce qu'il dit. Alors là, je dis à Zacharie, quand Zacharie fut choisi, l'ange dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Voici l'annonce que l'ange donne à Zacharie. Ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu lui donneras le nom de Jean. Et dans toutes ces annonces, vous voyez, il y a toujours le nom. Et comme on l'a dit avec les jeunes dimanche passé, quand il y a des naissances dans l'église ici, nous recevons souvent des SMS avec, ou soit sur WhatsApp, bah, bah, bah. Nouvelle de naissance, frère tel, sœur tel, nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance. Dans ces annonces, il y a quoi souvent? Si, on remarque bien, il y a le nom de l'enfant, le poids, la date de la naissance, le lieu de la naissance, et le nom des parents. Et dans ces naissances, les deux naissances, si vous remarquez très bien, dans ces deux naissances, il y a le lieu, il y a la date. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur, il y a la date. Et il y a le nom de l'enfant. Que ce soit pour Jésus-Christ ou pour Jean-Baptiste. L'ange donne les noms. Quand Dieu fait une annonce, il donne tous les détails possibles pour ne pas nous laisser ignorants. L'ange annonce la naissance de l'enfant et il donne son nom. Il donne le nom que tu l'appelleras Jean. Et il donne aussi et explique la mission de l'enfant. S'il faut revenir un peu en arrière, à Jésus-Christ, dans l'annonce de Jésus-Christ à Marie, l'ange a donné le nom, tu l'appelleras Jésus, et il donne aussi la mission. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et pour Jean-Baptiste, l'ange donne le nom, tu l'appelleras Jean, et il donne la mission même de Jean-Baptiste. L'ange dit, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, et il sera rempli de l'Esprit Saint de le Saint de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il explique tout, il donne même la mission de l'enfant. La deuxième chose, l'ange appelle son annonce bonne nouvelle. Si nous voyons verset 19, l'ange répondit à Zacharie, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » L'ange appelle son annonce bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle concerne toujours Jésus-Christ. La bonne nouvelle concerne toujours Jésus-Christ. Quand l'ange a parlé au berger, dans Luc chapitre 2, verset 10, qu'est-ce que l'ange a dit au berger? L'ange a dit ceci au berger, ou à partir du verset 8 du chapitre 2 de Luc, il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis de frayeur. Le verset 10, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce quoi ? Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. La bonne nouvelle concerne toujours Jésus-Christ. S'adressant à Zacharie, l'ange qualifie son annonce de bonne nouvelle. Et le message de l'ange à Zacharie, s'il faut se résumer, ça signifie quoi? Le Messie arrive. Le Messie arrive et tu auras un fils qui sera le messager pour préparer le chemin à la venue du Messie. C'est ça que ça voudrait dire. Ce que l'ange voulait dire, voulait faire comprendre à Zacharie en d'autres termes, que le Messie arrive, parce que cette nouvelle, cette annonce est une bonne nouvelle. Le Messie arrive, c'est ça la bonne nouvelle. Le Messie arrive et tu auras un fils. Et ce fils aura pour mission de préparer le chemin à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Autre chose intéressante aussi dans ce passage est que cette bonne nouvelle est tombée pendant qu'il y avait l'unité dans la prière. L'unité dans la prière. Luc 1, verset 10 nous dit ceci. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Quand les sacrificateurs étaient à l'intérieur pour offrir le parfum, ceux qui étaient dehors, la Bible dit, cette multitude, ils étaient en prière, ils étaient en communion. Ils étaient en communion, ils priaient, car toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Vous voyez qu'ils se soutenaient spirituellement les uns les autres. C'est très important. Et cette nouvelle, la bonne nouvelle, l'ange a apparu à Zacharie pour annoncer cette bonne nouvelle pendant que tout le monde était en communion d'esprit. Ils priaient. Ceux qui étaient dehors et celui qui était à l'intérieur, ils formaient un seul corps, un seul esprit, une seule âme. Et c'est ce que la Bible nous recommande, frères et sœurs. Nous devons avoir cette attitude d'avoir, comme dit la Bible, la même pensée, le même esprit. Et c'est là où le Seigneur fait des grandes choses. L'autre aspect, c'est que ceux qui étaient dehors, ils soutenaient les serviteurs de Dieu qui étaient à l'intérieur, dans la prière. Vous savez, souvent dans les églises, nous voyons seulement les gens qui passent devant. Qui passent devant, qui parlent, qui font la présidence, qui prêchent. Mais ceux qui travaillent dans l'ombre, on ne le voit pas. Il y a beaucoup qui travaillent dans l'ombre pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Et c'est très important cela. Il y a un livre où j'ai lu, où il est dit, les serviteurs de l'ombre. On ne le voit pas, on ne les sait pas, on ne les connaît pas. Mais ils prient, ils font des choses merveilleuses que nous, on ne voit pas. Mais que Dieu voit. Que Dieu voit. On arrive ici, la salle du temple est très propre. Bien, mais on ne sait pas comment c'est propre alors que hier, quand on était parti, c'était sale. Mais ceux qui ont fait le ménage, on les a pas vus. On ne connaît même pas c'est qui. Mais ils ont travaillé, ils ont œuvré pour le Seigneur. Il y a beaucoup de serviteurs d'ombre. Mais tout ce qu'ils font, c'est pour donner gloire à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Et cette multitude, ils priaient dehors à l'heure du parfum. Et c'est à cette heure-là que l'ange a apparu à Zacharie. Bien que les prières personnelles sont nécessaires dans notre vie chrétienne, mais les prières d'ensemble aussi sont importantes dans la vie d'une église. Nous pouvons prier individuellement chez nous à la maison, personnellement chez nous, c'est bien. Mais être une multitude, être ensemble, avoir des prières d'ensemble, c'est très important. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Car c'est là où j'envoie des bénédictions et la vie en quoi? En abondance. Il est doux et merveilleux de demeurer ensemble. Beaucoup de chrétiens disent, oui, je suis chrétien, mais moi je prie dans mon coin. Je prie à la maison tout seul. C'est bien. Mais non, mais quand on est ensemble, c'est là où Dieu fait des grandes choses. Envoie la vie et la vie en abondance. Et on le voit pour le cas de Zacharie. Zacharie était à l'intérieur, la multitude était dehors, mais ils étaient un, unis dans la prière. Et c'est là où Dieu a fait de grandes choses. Nous voyons le soutien du peuple à leur sacrificateur. Le soutien du peuple à leur sacrificateur. Frères et sœurs, nous devons soutenir nos serviteurs de Dieu. Nous devons soutenir les serviteurs de Dieu. C'est très important. Soutenir les serviteurs de Dieu, ça ne signifie pas seulement de faire ceci ou cela. Dans la prière, qu'on les soutient dans la prière. Zacharie a été soutenu par le peuple. Zacharie a été soutenu par le peuple parce qu'ils étaient un. Le deuxième point, c'est que Zacharie ne croit pas. Zacharie ne croit pas. Dieu fait une merveilleuse promesse. Dieu envoie un ange pour lui annoncer l'accomplissement de cette promesse. Que fait Zacharie? Il ne croit pas à la promesse de Dieu. Il ne croit pas à l'annonce de l'ange. Il doute. Il sous-estime Dieu. Alors l'ange lui dit carrément au verset 20, « Tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » L'ange dit, « Ah bon? Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Zacharie qui attendait un enfant depuis longtemps, et maintenant l'ange lui apparaît pour lui dire que tu auras un enfant, il ne croit pas. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura encore de mieux dans sa vie. Mais oui, parce que c'est ce que tu attendais depuis longtemps. Souvent, à l'époque, quand j'étais encore jeune, on était à l'école, on faisait des concours. Et on fait des concours, et celui qui va gagner, bon, le directeur d'école ou le professeur, il annonce, bon, c'est monsieur tel qui a gagné. Ah, j'y crois pas, j'y crois pas. Oh, mais qu'est-ce que tu voulais encore? Mais pourquoi tu as participé à l'examen ou bien au concours? On participe pour gagner. Et maintenant, on te dit que c'est toi qui as gagné. J'y crois pas. Mais y a pas, tu ne trouveras pas mieux ailleurs, en tout cas. Voilà. Et c'est le cas de Zacharie. Zacharie, il a passé toute sa vie à implorer la grâce de Dieu, à demander un enfant. Et maintenant, l'ange lui a parlé et lui dit que tu auras un enfant. Il ne croit pas. Le problème de Zacharie est qu'il avait une vision très limitée de Dieu. Il avait une vision très limitée de Dieu. Il ne croyait plus vraiment que Dieu allait lui donner un enfant. Il ne croyait plus. Il ne croyait plus. Parce que dans son esprit, il a limité Dieu. Nous voyons donc un homme qui aurait dû rester ferme dans sa foi, mais il a momentanément oublié la main puissante de Dieu qui a donné à Abraham et Sarah un fils. Zacharie a oublié Sarah. Zacharie était dans la même situation qu'Abraham et Sarah. Ils étaient tous les deux avancés en âge. Mais Abraham n'a pas réagi comme Zacharie. La Bible dit dans Romains 4, 19 à 20, Abraham qui sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Romains 4, 19, 20. Abraham n'a pas douté, mais il a cru. Et au verset 18 de Luc chapitre 1, nous lisons que Zacharie dit à l'ange, quand l'ange lui a annoncé cela, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » À quoi reconnaîtrai-je cela ? Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Les raisons de son doute ou de son incrédulité, c'est quoi ? Je suis vieux et ma femme, à cet âge-là, ça m'étonnerait. C'est ce que ça voudrait dire. Il dit, à cet âge-là, ça m'étonnerait. Les raisons de son incrédulité, c'est quoi ? Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. À quoi ? Et il dit, à quoi reconnaîtrai-je cela ? Ça voudrait dire quoi ? Zacharie demande une preuve. Une preuve. Zacharie demande un signe. Zacharie veut voir, veut savoir avec quelle puissance cela peut se faire. Parce que je suis vieux et humainement parlant, c'est impossible. C'est ça que ça voudrait dire. C'est ça que ça voudrait dire. Donne-moi une preuve. Donne-moi un signe. Et avec quelle puissance cela peut se faire. Alors l'ange lui répond en deux temps. L'ange lui donne d'abord son nom. Et l'ange lui donne un signe de sa puissance. Parce que tu veux tout savoir de preuve, quelle puissance est bien. Je vais te les donner, ces preuves que tu demandes. L'ange lui répond en deux temps, il lui donne son nom. L'ange dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Ça c'est au verset 19. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Moi, Gabriel. Un. Deux. Le signe. Tu veux le signe de ma puissance? Il n'y a pas de souci. T'en auras. Et au verset 20, l'ange lui dit au verset 20, ok, tu veux un signe. Et voici le verset 20. Tu seras muet. Tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Il lui donne le nom, il donne les signes de sa puissance. C'est que Zacharie voulait, non ? On lui a donné. Il restera muet jusqu'à ce que cette prophétie soit complètement accomplie. Il avait demandé un signe, il a maintenant un signe. Il avait remis en question la puissance de Dieu. Il a maintenant la preuve de la puissance de Dieu. Frères et sœurs, sous-estimer Dieu est aussi grave, plus grave que se rebeller contre Dieu. Beaucoup d'entre nous, ou certaines personnes, sous-estiment Dieu. Zacharie a enfermé Dieu dans sa manière de penser, et l'intervention de Dieu dépend de son raisonnement. C'est ça que ça voudrait dire. Donc, Zacharie a enfermé Dieu dans sa manière de penser. Il a limité Dieu dans sa tête. Puisque Dieu ne répond pas, il pensait que le doute, son doute, son incrédulité lui conduit maintenant à la remise en question de la puissance de Dieu. J'ai prié pendant autant d'années. Il n'y a rien. Et maintenant je suis vieux. Ma femme est avancée aussi en âge. Et tu me dis que vraiment, que j'aurai un fils. Eh bien, Tout cela l'a conduit à remettre en cause la puissance même de Dieu. Et beaucoup remettent en cause la puissance de Dieu dans leur vie chrétienne. Croyant que Dieu ne peut pas, parce qu'il y a ça, je ne pense pas, je ne crois plus, j'y crois plus. C'est comme ça que Zacharie a raisonné. Mais, chers frères et sœurs, remettre en question la puissance de Dieu, c'est grave, très grave, très grave. C'est très grave. Au lieu de regarder Dieu avec foi, Zacharie se regarde lui-même et sa femme et décide que la naissance d'un fils est impossible. Il pense que ses limitations physiques feront obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, dans ces annonces, frères et sœurs, il y a deux manières de répondre à la promesse de Dieu. Bien entendu, il y a la bonne et la mauvaise. Il y a deux manières de répondre à l'annonce de Dieu. Il y a deux manières de répondre à la promesse de Dieu. Nous allons maintenant considérer deux personnes. Comment ils ont réagi face à la promesse de Dieu, face à l'annonce de Dieu. Nous allons considérer Marie d'un côté et Zacharie de l'autre côté. Marie d'une part et Zacharie de l'autre part. Lorsque nous comparons Zacharie à Marie, nous voyons que Zacharie a des doutes et demande à l'ange un signe. Mais Marie se soumet à la volonté de Dieu lorsqu'elle est informée qu'elle deviendra enceinte et il enfantera un fils. Si nous lisons au verset 1, au chapitre 1, le verset 38, quand l'ange s'est adressé à ce que Marie avait dit à l'ange, la réponse de Marie à l'ange, si nous la comparons avec la réponse de Zacharie à l'ange, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Alors, comment Marie a réagi? Luc 1, chapitre 38 dit, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. » Et l'ange a fait quoi? L'ange la quitta. « Je suis la servante de Dieu, et que cela, qu'il me soit fait selon ta volonté. » Et l'ange la quitta. Lisons la réaction, la réponse de Zacharie à l'ange, au verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, ma femme est avancée en âge. » Voilà deux manières différentes de répondre à l'annonce, à la promesse de Dieu. La réaction de Marie au message de l'ange est très différente de celle de Zacharie. Tandis que Zacharie exprime des doutes, Marie accepte ce qu'on lui avait dit. Marie accepte, mais Zacharie émet des doutes. Marie demande une explication. Au verset 34, Marie ne doute pas, mais Marie demande une explication à l'ange. Le verset 34, il dit ceci. Quand l'ange lui a annoncé qu'il deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils et qu'il donnerait le nom de Jésus, au verset 34 du chapitre 1 de Luc, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Marie demande une explication, Marie ne doute pas. Marie demande une explication. « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Par contre, Zacharie, comme on l'a lu tout à l'heure, au verset 18, Zacharie ne demande pas d'explication. Zacharie demande une preuve, il demande des signes. Parce qu'il dit au verset 18, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Comment je vais reconnaître cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Voilà, si vous comparez les deux. Marie demande une explication. Zacharie demande un signe, il demande une preuve. Au verset 35, Marie reçoit une explication de l'ange. Et quelle est l'explication de l'ange au verset 35? L'ange dit à Marie, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Marie reçoit une explication. Et dans notre tableau de comparaison, regardons Zacharie alors. Qu'est-ce qu'il reçoit? Zacharie reçoit une sanction, une punition. Marie reçoit une explication, Zacharie reçoit une punition. Le verset 20 nous dit, « Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. » Zacharie n'a pas cru, il reçoit une punition. Marie a cru, il reçoit une explication. Chers frères et sœurs, faisons attention avec la parole de Dieu. Faisons attention avec la parole de Dieu. S'il y a certaines choses que nous ne comprenons pas, mettons-nous à genoux, implorons le Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas. Fais-moi voir clair dans ce passage. Qu'est-ce que tu veux me dire? Même si tu passes par des moments un peu difficiles, ne commence pas à dire tout et n'importe quoi. Cherche la volonté du Seigneur. Seigneur, explique-moi, éclaire-moi. Qui est de demander de preuves, de signes? Et aujourd'hui, dans ce monde, beaucoup d'enfants de Dieu se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils suivent des signes, ils suivent des preuves. Regardez dans Paris, il y a des affiches. Venez telle date. Grande journée des miracles. Ramenez des boiteux, ramenez ceci. Les gens veulent voir des preuves, des signes. Mais ce n'est pas ça qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ. Et quand tu as la foi en Jésus-Christ, comme Marie, tu te soumets à la volonté du Seigneur. Tu ne cherches pas à voir de preuves ou des signes. Marie a reçu une explication. Zacharie a reçu une sanction. Il a reçu une punition. Marie a vu l'impossibilité humaine aussi clairement que Zacharie. Marie a vu l'impossibilité humaine. Hein? Marie a dit à l'ange, mais je ne connais pas d'homme, je ne suis pas marié. Comment je peux avoir un enfant? Il a vu que c'est impossible humainement parlant. Zacharie aussi a vu l'impossibilité humaine. Il a dit, mais oui, moi je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Humainement parlant, c'est impossible. Comment cela peut se faire? Mais Marie se soumet à la volonté de Dieu et non Zacharie. Voilà la différence, il faut dresser un tableau sur ça. Combien de fois nous regardons à l'impossibilité humaine? Combien de fois nous regardons aux circonstances de la vie au lieu de regarder à Christ? Combien de fois? Combien de fois, chers frères et sœurs, nous réagissons comme Zacharie? Nous regardons ce qui nous entoure, les circonstances. C'est exactement comme Pierre dans la barque. Quand le Seigneur lui a dit « Viens », il est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand il a commencé à regarder aux circonstances, les vagues, les vents, les ceci, les cela, la Bible nous dit quoi? Pierre commençait à couler. Si nous regardons, si notre foi est calquée que sur les circonstances de la vie, chers frères et sœurs, nous risquons de couler comme Pierre a coulé. Mais Marie a fait confiance au Seigneur et elle s'est soumise à la volonté du Seigneur. Combien de fois nous regardons dans la mauvaise direction au lieu d'avoir confiance au Seigneur et de fixer nos yeux vers lui. Le problème est que nous regardons des fois vers le bas au lieu de regarder vers le haut au lieu de regarder vers Christ. Nous nous regardons nous-mêmes. Je ne peux pas. Au lieu de faire confiance à Christ. Nous nous regardons nous-mêmes des fois. Non, je ne peux pas. Parce que tu te regardes toi-même. Comme Zacharie s'est regardé. Non, je ne peux pas. Et la conséquence de l'incrédulité de Zacharie, c'est quoi? Il est devenu muet. Le Seigneur l'a frappé et il est devenu muet. Mais les conséquences de l'incrédulité de Zacharie n'est pas liée à la promesse annoncée, parce que la promesse s'accomplira. La promesse s'est accomplie. Bien que Zacharie a manifesté une sorte d'incrédulité, mais ce que le Seigneur a dit, il accomplira. Il accomplira. Parce que Élisabeth devait enceinte et cette promesse s'est accomplie. Dieu reste toujours fidèle, même lorsque nous demeurons infidèles. Dieu reste toujours fidèle. Il accomplit toujours ce qu'il a dit. Il accomplit toujours ce qu'il a dit. Et au verset 45, nous voyons que Élisabeth félicite Marie d'une manière qui ressemble à une critique vis-à-vis de son mari, Zacharie. Si nous regardons ce que la femme de Zacharie, Élisabeth, a dit à Marie, quand Marie était partie voir, à visiter Élisabeth, qu'est-ce qu'Élisabeth a dit à Marie? Ce qu'il a dit à Marie, ce qu'elle a dit à Marie, est vraiment en contraste avec l'attitude de son mari. Lisons cela dans Luc chapitre 1, verset 45. Élisabeth dit à Marie, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Élisabeth dit à Marie, c'est comme si il pointait son mari, mais regarde celui-là, il n'a pas cru. Hein. Mais toi, heureuse, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Chers frères et sœurs, croyons, faisons confiance à ce que le Seigneur dit. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il est Dieu, il restera Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Mais il le fait selon son timing, selon son temps. Pas trop tôt, pas trop tard, mais il le fait. Il sait quand est-ce qu'il peut le faire. Et si tu fais confiance en cela, on te dira, comme Élisabeth a dit à Marie, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et c'est au moment maintenant de l'acte de l'obéissance qu'à Zacharie a obéi maintenant à ce que l'ange lui a dit, c'est là où Zacharie a retrouvé la parole. C'est là où Zacharie a retrouvé la parole. C'est au moment de l'acte d'obéissance à Dieu, en donnant le nom de Jean à son fils, comme l'avait dit l'ange, que Zacharie a retrouvé la parole. Sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu et donnant gloire à Dieu. Vous pouvez voir ça au verset 64 du chapitre 1, où il est dit, au même instant, quand on lui a demandé, quand l'enfant est né, au verset 60, il est dit, mais sa mère prit la parole et dit, on peut lire à partir du verset 59, le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelèrent Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Jean dit, non, l'enfant, donc, on va l'appeler Zacharie, c'est le nom de son père, il doit porter le nom de la famille. Sa mère dit, non, 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 il ne sera pas appelé Jean. On lui dit, mais oui, dans notre famille, il n'y a pas de Jean, d'où viennent ces gens-là? Mais sa mère dit, on va s'appeler Jean. Et ça, ça pose problème. Si c'était aujourd'hui, on va dire, mais, ouais, mais, il y a quoi entre Quel est le lien entre toi et ces gens-là? Le nom des gens-là, quel est le lien? Mais Élisabeth a insisté, on va l'appeler Jean. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 on va demander à son père. On va demander à son père quel est le nom qu'il veut que son enfant porte. Alors, sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Le verset 61, il dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de son nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. L'obéissance est un acte de foi. Quand il a fait un acte de foi, quand il a obéi à ce que l'ange lui avait dit, parce que l'ange lui avait dit que ta femme deviendra enceinte, il va enfanter un fils, tu l'appelleras Jean. Et quand il a dit que l'enfant ne va pas s'appeler Zacharie, on va l'appeler Jean, c'est en ce moment-là qu'il a retrouvé sa parole. L'obéissance est un acte de foi, parce que cela a brisé les conséquences de l'incrédulité de Zacharie. Dès qu'il a obéi à la parole du Seigneur, il n'y avait plus de conséquences de son incrédulité. Il a commencé à parler. Pour finir, frères et sœurs, quand je doute la promesse de Dieu, quand je doute à sa parole, je n'ai rien à dire à la gloire de Dieu. J'ai rien à dire à la gloire de Dieu. Je suis muet comme Zacharie. Quand Zacharie a exprimé le doute de l'incrédulité, il n'avait nulle part, il est écrit qu'il a glorifié Dieu ou qu'il a béni le Seigneur. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est resté muet. Et quand vous et moi, nous doutons de la parole de Dieu, nous doutons de la promesse de Dieu, nous aurons du mal à glorifier, à dire gloire à Dieu. Nous allons rester muets comme Zacharie. Mais par contre, quand j'obéis à la parole de Dieu, j'aurai de quoi glorifier le Seigneur et bénir son nom. Parce que Zacharie, il est dit, Zacharie, au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, faisant quoi? Bénissant Dieu. On obéit à la parole de Dieu, on aura de quoi glorifier le Seigneur. Et plus loin, on n'a pas le temps, mais plus loin, vous verrez qu'à partir du verset 67, il y a même le cantique des Zacharie. Le cantique des Zacharie. À l'honneur, à la gloire du Seigneur. Et le verset 60, il commence là en comment verset 68, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu auras de quoi glorifier et bénir le nom de Dieu. Mais quand tu restes muet, tu n'obéis pas, tu n'auras rien pour glorifier et bénir le nom de ton Dieu. Alors, sommes-nous des Zacharie qui a douté de la promesse de Dieu ou sommes-nous des Marie qui a fait confiance à la promesse de Dieu? Ne crains point, car ta prière a été exaucée. Les prières faites par la foi ne sont jamais oubliées. Ne sont jamais oubliées. Même si Zacharie avait l'impression que Dieu a oublié, que Dieu ne pouvait plus. Mais les prières que nous faisons par la foi ne sont jamais, jamais, jamais oubliées. Et pour les jeunes aussi, les prières faites par la foi lorsqu'on est jeune ne sont jamais oubliées, les jeunes. Ces prières peuvent être exaucées lorsque vous serez vieux, si c'est la volonté du Seigneur. Les jeunes, attention. Les prières faites dans votre jeunesse, les prières par la foi faites par votre quand vous êtes jeune ne sont jamais oubliées. Et si c'est la volonté du Seigneur, ça peut être exaucé même dans votre vieillesse. Que le Seigneur bénisse sa parole.